Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, au lendemain de l'effondrement de la dalle d'un bâtiment en construction à l'université Norbert Zongo qui a fait 4 morts, le ministre de l'Enseignement supérieur est arrivé ce matin à Kudugu. Les responsabilités seront situées à Réagi Alkassoumaïga. Le point en début d'édition avec notre correspondant. Aujourd'hui, nous sommes le 1er septembre 2021. Il y a de cela 12 ans, la capitale burkinabé a connu une pluviométrie sans précédent avec son corollaire d'inondation. Retour sur cette date dans cette édition. Dans l'actualité sportive, il est question des éliminatoires de la Coupe du Monde. L'Afrique entre dans la danse ce mercredi. Le Burkina affronte le Niger demain au Maroc. Et puis à l'approche de la rentrée scolaire, nous recevons comme invité le commissaire Alidou Ouédraogo. Avec lui, on parlera du phénomène de la drogue qui prend des proportions inquiétantes dans le milieu scolaire au Burkina Faso et notamment des actions menées pour stopper ce fléau. Quatre morts mardi dans l'effondrement d'un bâtiment en construction à l'université Norbert Zongo de Kudugu. Il s'agit de 3 étudiants, dont une fille, tous des stagiaires de l'Institut universitaire de technologie. Logé au sein de l'université Norbert Zongo, la 4e victime est un ouvrier béninois. Et au lendemain de ce drame, le ministre de l'Enseignement supérieur est arrivé ce matin à Kudugu. Pour en parler, nous avons en ligne notre correspondant. Bonjour Sabuna Ouédraogo.
Bonjour Brigitte Yoda.
La justice s'est saisie du dossier et les responsabilités seront situées, a dit le ministre Alkassoumaïga.
Effectivement, le ministre Alkassoumaïga est arrivé à Kudugu. Il est allé voir les 3 corps à la morgue du CHU de Kudugu avant de présenter ses condoléances aux familles des 3 étudiants stagiaires. Sur les lieux du drame, le ministre a déploré cette situation. Il a annoncé qu'une enquête est ouverte par le parquet et que bientôt les responsabilités seront situées pour le ministre. À l'issue de l'enquête, toutes les personnes physiques ou morales mises en cause répondront devant la justice de leur acte. Il a martelé que même si le ministre est mis en cause, il devra donc assurer donc les conséquences de cette situation que beaucoup d'étudiants et populations de Kudugu déplorent. Justement, à propos des étudiants, on est très remonté contre l'entreprise, en tout cas qui mène les travaux au sein de l'université Norbert Zongo. Pour les étudiants, il est difficile de comprendre en tout cas cette situation et qui semble être une négligence côté population. On estime que c'est la corruption qui est à la base des différents problèmes que connaissent les infrastructures au Burkina Faso et qu'il va falloir donc que le chef de l'État lui-même tape du poing sur la table afin que les entreprises et que les sanctions soient exemplaires pour permettre au Burkina Faso et aux populations d'avoir des infrastructures dignes comme il se doit.
À l'instant, notre correspondant à Kudugu, Sabuna Ouédraogo, merci pour toutes ces informations. La fusion se poursuit entre les partis politiques et mouvements ayant la même vision que l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, Unir PS. 3 autres partis ont rejoint le parti de l'œuf. Il s'agit de la Convention des patriotes et progressistes face au Bara, de l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste et le mouvement pour la cause du Faso. La signature des accords a eu lieu hier au siège de l'Unir PS à Ouagadougou, le compte-rendu de Pierre Badolo et Jacob Compaoré.
Les oisillons qui s'étaient envolés loin de la coquille de l'œuf qui les a vus naître sont de retour autour de cet œuf magique et visionneur des valeurs de Thomas Sankara. Et c'est dans le but de constituer une seule et unique force et idéal d'éthique sankariste que s'est tenue cette signature de protocole d'accord entre le CPPFB, l'URDMS, le mouvement Face aux causes et l'UNIPS, qui disent d'une même voix vouloir être un modèle pour la jeunesse. Benwende Stanislas Sankara, président de l'UNIPS.
Les documents que nous allons signer sont bien élaborés et que le consensus y est, les formes sont mises, le fond également y est. C'est à nous de susciter l'espoir pour cette jeunesse qui est héritière de toutes les luttes qui ont été menées pour préserver la mémoire du président Sankara et perpétuer son combat. Parce que ce qui nous manque, c'est une véritable alternative Sankaris.
La direction de Tout Sankaris se trouve sans doute dans la même vision. Et c'est ce qui a suscité la prise de conscience chez ces trois partis progressistes à se retrouver autour d'une même table en ce jour du 31 août. Siaka Baro, président du CPP Faso Bara.
Aujourd'hui, c'est tout à fait nécessaire, capital pour nous. C'est nécessaire qu'on se retrouve. C'est très important. Parce que la plupart du temps, les progressistes, les sankaristes, ils sont toujours dispersés. Il faut au moins se tirer les leçons de ce qui s'est passé et bien sûr aller ensemble, regarder dans la même direction et pouvoir en tout cas constituer bien sûr une force alternative.
La fusion des partis et mouvements partageant le même idéal, à savoir celle du président Thomas Sankara, a débuté le 4 août dernier entre l'UNIPS et le MPS. Un congrès est prévu dans les jours à venir, a annoncé Benwende Stanislas Sankara.
Faisons maintenant un retour 12 ans en arrière. Le 1er septembre 2009, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a connu une pluviométrie sans précédent avec son corollaire d'inondations qui ont entraîné une catastrophe naturelle. Près de 300 mm d'eau sont tombés en 10 heures. Bernabé Cabré revient sur cette pluie diluvienne qui a constitué un événement exceptionnel au pays des hommes intègres.
Des habitats, des infrastructures publiques, des ponts, des écoles, des bâtiments administratifs, des institutions sociales et économiques de toute nature sont sous les eaux. Il est très difficile d'estimer les dégâts, mais plus de 150 000 personnes sinistrées sont enregistrées par suite d'effondrements de leurs maisons. Des institutions publiques et privées ont vu leurs outils de travail, les documents et des archives immergés d'eau. 9 personnes ont perdu la vie et une dizaine de ponts endommagés pour la seule ville de Ouagadougou. Les besoins humanitaires en santé, en alimentation, en réhabilitation, en matériel et logistique s'imposent. Les milliers de familles sont dans la désolation et le désespoir et n'ont plus qu'un seul recours, les écoles. Grâce à l'esprit de solidarité des familles, certaines bonnes volontés ont accueilli certains des sinistrés au sein de leur domicile. Le Burkina Faso a besoin de plus de 70 milliards de francs CFA pour pouvoir faire face à cette situation. Le gouvernement burkinabé met en place un comité de crise et lance le 7 septembre une campagne de solidarité nationale et internationale. Les membres du gouvernement burkinabé, dirigés par Tertius Zongo, premier ministre à l'époque, servent un mois complet de leur salaire au titre des contributions pour soutenir les sinistrés, soit environ 52 millions de francs CFA. Au total, l'unité de gestion des secours d'urgence a reçu environ 19 milliards de francs CFA, dont 980 millions en nature. Les dons en nature étaient essentiellement composés de produits alimentaires, de matériel de couchage, d'effets d'habillement, de matériel de construction, de produits pharmaceutiques. 5 554 millions de francs CFA ont été dépensés pour aider les sinistrés à se reloger.
Un mot de l'actualité internationale. Joe Biden a salué hier l'extraordinaire succès de la mission d'évacuation des Américains et de leurs alliés depuis l'Afghanistan lors d'un discours solennel à la Maison-Blanche sur la fin de la longue guerre des États-Unis. Les États-Unis restent déterminés à évacuer les Américains restants en Afghanistan, dont le nombre est évalué entre 100 et 200, a-t-il assuré. Le président américain a également défendu sa décision de quitter l'Afghanistan en affirmant que les États-Unis n'avait eu d'autre choix que le départ ou l'escalade militaire dans la plus longue guerre américaine après l'accord passé par son prédécesseur Donald Trump avec les talibans.
Omega Sport.
Éliminatoire Coupe du Monde, l'Afrique entre dans la danse ce mercredi, mais le Burkina dispute son premier match demain contre le Niger au stade de Marrakech au Maroc à partir de 16h. Et ce sont des étalons gonflés à bloc qui promettent d'écrocher une victoire. Bernabé Cabré.
Entamer efficacement les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, tel est l'objectif du Burkina Faso face au Niger. Les hommes de Kamou Malo ont peaufiné leurs armes à Marrakech tout en prenant le soin d'avoir une idée sur l'adversaire nigérien.
Nous essayons de plucher en tout cas leurs vidéos. Nous savons qu'ils étaient en préparation depuis de longues dates. C'est ce qu'on a comme argument, c'est que c'est constitué de beaucoup de joueurs qui jouent peut-être dans les championnats africains. Raison pour laquelle ça les a permis en tout cas de faire un regroupement avant terme.
Des nouveaux, des anciens et des retours. Telle est la configuration du groupe étalon au Maroc. Parmi les nouveaux, Jean-Fiacre Kwame Botoué, convoqué pour la première fois chez les A.
Moi, je suis toujours prêt parce qu'il faut toujours s'attendre à tout. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que, bon, à quelque part, je suis suivi par mes performances en club. Et si aujourd'hui, j'ai la chance de représenter mon pays sur le plan international, je ne peux qu'être heureux.
Après le Niger, le Burkina Faso sera face à l'Algérie, favori du groupe A. Kamou Malo veut d'abord résoudre l'équation nigérienne.
Ma projection actuelle, c'est sur le match contre le Niger. C'est le match qui va poser les jalons de notre futur. Que le Niger ne soit pas favori de cette poule, oui, tout comme nous. Et si vous ne respectez pas votre adversaire, je ne vois pas comment vous pourrez le vaincre.
Ce sera la troisième confrontation en match officiel entre le Burkina Faso et le Niger. Les deux dernières jouées en 2013 pour le compte des éliminatoires du Mondial 2014 avaient souri aux étalons, vainqueur 4-0 à Ouagadougou et 1-0 au Stade Général Sénou Koundié de Niamey.
Le coup d'envoi de la phase de groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 sera donné cet après-midi sur le continent africain. La Centrafrique affronte le Cap-Vert à 13h à Douala au Cameroun. La Guinée-Bissau et la Guinée se rencontrent à 16h à Nouakchott en Mauritanie. Sénégal-Togo à 16h à Thiès. Libye-Gabon à 19h à Benghazi. Mali-Rwanda à 19h à Agadir au Maroc. Et Égypte-Angola à 19h au Caire.
La revue de presse.
L'écroulement de la dalle d'un bâtiment en construction à Koudougou et la simulation de viol lors d'une émission télé en Côte d'Ivoire, commentée par les quotidiens du jour. La revue de presse de ce mercredi est présentée par Monique Soro.
L'effondrement d'un bâtiment à l'université Norbert Zongo faisant état de 4 morts, dont 3 étudiants stagiaires et 1 ouvrier, fait la une de nos quotidiens. Qu'est-ce qui a bien provoqué la chute de cette dalle? S'interroge l'observateur Palga. Une mission de contrôle a visité hier matin le chantier et c'est quelques minutes après son départ que le drame s'est produit, aux environs de 9h, indique l'Obs, qui ajoute que c'était une réunion entre travailleurs. Selon le doyen des quotidiens, 5 minutes après, l'un d'eux a constaté que le mur voulait s'effondrer et a signalé aux autres. Malheureusement, la dalle s'est effondrée sur 5 d'entre eux qui n'ont pas pu partir à temps, a-t-il confié. Heureusement, une personne a été sauvée par les premiers secours, poursuit aujourd'hui au Faso, qui explique que le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Koudougou, qui était sur les lieux du drame, ne s'est pas prononcé. Il a donné rendez-vous à la presse ce mercredi matin. Le journal de tous les Burkinabés, Sidoya, rappelle que le chantier est initié dans le cadre du projet Cité universitaire du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Pour notre confrère, les travaux sont exécutés par l'entreprise Suzy Construction pour un coût global d'environ 20 milliards. Autre actualité qui suscite l'émoi, c'est la reconstitution du viol sur une chaîne ivoirienne. L'un des sambeuses, titre l'observateur Palga. Encore Yves Dembella, soupire nombre de téléspectateurs choqués et outrés. En effet, la chaîne NCI a reçu un ancien violeur repenti à l'aide d'une poupée géante de femme. Celui-ci a démontré comment il s'acharnait sur sa proie, bien sûr, sous l'œil admirateur d'Yves Mbella, qui semblait baver littéralement de plaisir à la vue de mode opératoire de la star du jour, regrette notre confrère. Mais si Yves de Mbella a écopé d'une sanction disciplinaire, comme l'a annoncé la direction de NCI, qu'adviendra-t-il de son invité? Questionne l'observateur Palga. Sur cette question, aujourd'hui au Faso répond. Le ministre de la Femme, Naseneba Touré, a condamné l'émission, l'invité et l'animateur. Un scandale pour le journal qui nous informe que la Ligue ivoirienne des droits de femmes, offusquée aux entournures, a demandé à la Haute Autorité pour la communication de l'audiovisuel de se saisir de l'affaire pour que des sanctions tombent.
L'invité de la rédaction.
Dans quelques semaines, les élèves reprendront le chemin de l'école et depuis quelques années, le phénomène de la drogue prend des proportions inquiétantes dans le milieu scolaire au Burkina Faso. Plusieurs structures se donnent la main pour stopper ce fléau. Parmi elles, l'unité anti-drogue pilotée par le commissaire Alidou Ouédraogo. Dans cet entretien, il nous parle des opérations de terrain et des appréhensions de présumés dealers menées par son unité. Il répond aux questions de Valérie Guéry.
Commissaire Ouidraogo, bonjour.
Bonjour.
À combien pouvez-vous estimer le nombre de personnes qui ont été interpellées depuis le début de cette année?
Depuis le début de cette année, nous avons pu interpeller plus de 300 personnes. Il y a des dealers, il y a des consommateurs aussi.
En parlant de dealers, il y en a qui pensent que vous avez des difficultés à mettre la main sur les grands dealers.
Ce n'est pas faux parce que ce sont des gens qui emploient de gros moyens, souvent qui dépassent les moyens dont disposent les forces de sécurité. Appréhender quelqu'un sans preuve, c'est comme si vous n'avez rien fait. Ils font travailler d'autres personnes, mais n'empêche que vous suivez la personne. Malheureusement, nos moyens de suivi aussi sont un peu limités. Je veux parler éventuellement de table d'écoute. Ils vont nous permettre vraiment de mettre la main sur les grands.
Nous savons que la drogue est présente en milieu scolaire. Quel type de drogue circule le plus dans ce milieu?
Le cannabis, l'héroïne et puis la cocaïne qui circulent là-bas. Les services de l'unité anti-drogue sont des services de répression. Nous touchons du réel la chose et nous sommes en tout cas mieux indiqués pour donner des conseils à ces élèves. Pour l'année scolaire passée, nous avons eu à mener des séances de sensibilisation dans quelques établissements et en collaboration avec le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Il y a aussi d'autres associations qui mènent aussi des activités de sensibilisation. Mais nous avons un programme pour cette année. Aux chefs d'établissement qui veulent que nous passions, n'ont qu'à exprimer le besoin. Il y a une chose qu'il est bien de noter, il y a un éveil de conscience. Dans le milieu des consommateurs, il y a des gens qui n'en peuvent plus et qui commencent à dénoncer les dealers. Je veux parler du milieu estudiantin. Il y a aussi des chefs d'établissement qui, par le biais des surveillants, arrivent à dénoncer des dealers qui sont des élèves.
Mais quel mécanisme conseillez-vous aux différents établissements scolaires pour faire face au phénomène de la drogue?
Il va falloir d'abord que les chefs d'établissement soient plus regardants. En collaboration avec les parents d'élèves, ils doivent être plus regardants. Les surveillants, ils doivent être plus regardants. Et aussi, nous les invitons à dénoncer les faits de consommation dans les différents établissements. Nous ne cessons de mener des patrouilles aux encablures des établissements. Nous sommes présents. Beaucoup de chefs d'établissement le savent. Je dis aux chefs d'établissement, nous sommes là pour les accompagner. Et pour des activités de sensibilisation aussi, il y a le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue. Il y a aussi beaucoup d'associations qui répondent à cela.
Vous venez d'interpeller aussi les parents. Selon vous, comment les parents pourraient également vous aider?
Je dirais aux parents de ne pas avoir peur, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que non, lorsqu'ils dénoncent leur enfant consommateur, nous allons venir l'appréhender et puis le déposer directement au niveau du parquet. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Nous savons que l'enfant est en partie victime. Par conséquent, lorsqu'un parent vient vers nous, nous faire comprendre que son enfant consomme, il faut aussi penser à l'aspect psychologique. On n'appréhende pas l'enfant du coup pour tout gâcher. On aborde l'enfant avec la technique ici pour remonter jusqu'au vendeur. Et notre intérêt, c'est de pouvoir mettre la main sur le vendeur. Et même les consommateurs nous le disent, nous allons vous aider à mettre la main sur le vendeur. Parce que c'est eux qui nous foutent la merde. Et il y a aussi le centre d'addictologie au niveau du CHU Algado, où nous travaillons en collaboration avec ce centre-là pour la prise en charge de ces enfants. Il y a d'autres structures aussi de prise en charge. Et lorsque les parents viennent vers nous, nous les orientons vers ces structures de prise en charge-là pour l'accompagnement des enfants consommateurs.
Mais parfois, certains parents n'arrivent pas à détecter ça tôt. Quels sont les signes que présente un enfant qui prend la drogue?
Lorsque vous constatez que votre enfant rentre tard, se réveille tard, il faut émettre des inquiétudes. L'enfant peut dormir toute la journée. Quand l'enfant rentre dans la dépendance physique, il y a des signes cliniques qui le montrent. Mais de façon générale, lorsque vous constatez que le comportement de votre enfant a changé, il faut commencer d'abord à investiguer. Même si vous n'avez pas de preuves lorsque vous le constatez, il faut venir vers les structures et nous allons commencer à investiguer. Et nous l'avons déjà fait avec beaucoup de parents d'élèves. Un monsieur qui est venu vers nous pour nous dire que non, le comportement de mon enfant a changé. Nous avons suivi l'élève pendant plus d'un mois et demi et c'est là que nous avons su que non, l'enfant consommait la drogue la nuit, ce qui faisait qu'il ne pouvait pas se lever tôt, et nous sommes remontés jusqu'au vendeur. Et c'est l'enfant même qui nous a aidé à mettre la main sur le vendeur.
En parlant de la vente de la drogue, le Burkina n'est pas un grand producteur de drogue, ça vient d'ailleurs. Qu'est-ce qui complique la lutte contre l'entrée de la drogue sur le territoire?
Pour parler du maillage sécuritaire, parce que nous n'avons pas les forces de sécurité un peu partout dans le pays. Nos frontières sont poreuses. Il y a aussi le terrorisme qui s'est invité. Nous n'avons pas l'accès facile à beaucoup de jeunes. Facilement, la drogue rentre. Comme les moyens de lutte aussi sont limités, nous faisons avec les moyens de bord. Lorsque nous aurons un maillage conséquent des forces de sécurité sur toute l'étendue du territoire national, vous allez voir que le trafic va considérablement baisser.
Et qu'est-ce que la brigade a besoin pour des moyens de lutte efficaces?
Il faut parler d'abord de la formation, puisque les choses évoluent. Et nous travaillons toujours avec les méthodes empiriques. Aujourd'hui, pour faire de la détection, il faut du matériel. Nous avons des matériels limités. Il faut parler des moyens roulants, aussi un accompagnement conséquent pour la prise en charge aussi de ceux qui dénoncent. En vérité, ceux qui viennent vers vous pour dénoncer des faits de vente, ils s'attendent en retour à quelque chose. Pour l'instant, je dirais que non, c'est un acte citoyen. Elle s'est dit que non, si je ne dénonce pas, même si je ne consomme pas, le consommateur peut venir me créer des ennuis.
Merci, commissaire Ouédraogo.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de la rédaction.
Le commissaire Alidou Ouédraogo de l'unité antidrogue répondait aux questions de Valérie Guéret. C'est ici que prend fin ce journal réalisé par Adama Konaté. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.